Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Jusqu'à midi, on est ensemble au frais. J'espère que vous nous écoutez tranquillement et que ça vous rafraîchit un peu les idées et le corps d'écouter les analyses de Jérôme Pinault, de Sarah Pitkowski et Pascal Duprat. Ah, j'ai reçu plein de messages pour bien notre séquence un peu vintage il y a quelques instants sur France-Brésil 86 à Guadalajara, le quart de finale de Coupe du Monde remporté par les Bleus avec le tir au but de Luis Fernandez. C'était il y a 40 ans jour pour jour. Et tiens, j'ai des messages que je vais essayer de retrouver sur WhatsApp, c'est bon. Il est là, Olive qui me dit salut l'équipe, pour moi c'était le match du siècle. De mémoire, il était aussi sur Antenne 2, effectivement, commenté par Michel Drucker et Piantoni, avec la libération des otages du Liban en direct pendant le match. C'était vrai, il y avait une libération des otages en même temps en double fenêtre pendant la rencontre, qui rajoute de l'irréel à ce match. L'ouverture de Platini sur Bellone et la faute incroyable non sifflée, Zico bat Fernandez. Mais quel bonheur.
Où est-ce qu'il se situait ce match, Georges?
À Guadalajara, à l'Estadio Jalisco. Non, les amis, il va falloir un petit peu. Et aujourd'hui, c'est la Roja qui joue, l'Espagne. C'est pas la Roja. La Roja.
Là, il
a
échoué.
Enfin, j'aurais cru qu'on pourrait régler les gens.
Pourquoi on pourrait pas faire une émission entièrement 3 heures qu'en espagnol?
Eh ben, parce qu'on n'aurait plus aucun auditeur, tout simplement.
Ouais, mais on serait bercé. On serait bercé par la Rota de Georges. Et même si on comprend pas, ça nous bercerait.
Dans un instant, sur le buzzer, on va parler de Lionel Messi, qui est inspiré par Rafael Nadal. Rafa est-il vraiment un bon exemple pour les jeunes sportifs? Mais respecte-moi. En fin d'émission, les jeux du sport avec vos GG, qu'on appellerait en Espagne le Ruegos du sport. Aujourd'hui, vous pouvez gagner votre enceinte portable Mino X de Lexon. Magnifique enceinte. Franchement, c'est une super enceinte, vraiment.
Ah oui, elle est flottante. On peut l'acheter dans une piscine et comme un mannequin, on va la chercher au fond.
Exactement, mais c'est-à-dire que tu peux être dans ta piscine et écouter les grandes du sport.
Ouais.
C'est quand même. Non, pas au fond parce qu'elle flotte.
Elle flotte. Elle flotte.
Mais non, ah oui, parce que
donc
sinon.
Donc tu te mets sur un matelas.
Ouais.
Parce que tu mets un matelas et tu mets l'enceinte à côté.
T'as pas besoin de mettre l'enceinte sur le matelas. Elle est là, elle flotte à côté.
Génial.
C'est hyper pratique. C'est hyper pratique.
Moi, perso, j'ai pas de piscine, mais bon.
Ah, mais tu peux la mettre dans ton bain, fais ce que tu veux.
Pas. Ah non, j'ai pas de baignoire non plus.
Oh, bah tu la mets, je sais pas quoi te dire.
Dans un seau d'eau, tu la mets dans un seau d'eau.
Dans une machine.
Voilà, juste pour tester. Ah, bah elle flotte.
Génial, elle
allez,
flotte.
Pour la gagner.
Quand tu fais la vaisselle, tu la mets dans ton évier.
Oui, tu te promènes avec ton seau.
Par contre, j'ai un lave-vaisselle.
Vous êtes des super commerciaux. Je vous passe le numéro de Lexon pour vendre l'enceinte portable à gagner aujourd'hui. 32-16, touche 4, envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Maintenant, vous avez plein d'idées pour l'utilisation si jamais vous la gagnez.
Génial.
Allez, tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
On l'a ouvert, la porte du vestiaire. Regardez, petit problème d'articulation. Quand il fait 40 degrés, c'est évidemment, c'est un petit problème également sur notre système nerveux, notre façon de parler. Bah tiens, justement, parlons-en. Les GG cette semaine, ce qui nous fait parler, c'est ça, c'est l'épisode caniculaire que l'on vit actuellement. Alors on le sait, il y a des compétitions sportives qui sont annulées un petit peu partout, comme des événements sportifs ou des événements festifs. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, en ce jour de fête de la musique. On a vu plusieurs accidents même de sportifs amateurs qui sont allés courir à la mi-journée sous la chaleur en plein cagnard, et ça a parfois malheureusement entraîné des drames. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, la gestion de la chaleur, surtout quand on est sportif de haut niveau. Il faut faire avec, on le voit actuellement à la Coupe du Monde, c'est pas les pauses fraîcheur de 3 minutes qui arrivent à vous faire résister à tout ça. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est sportif de haut niveau? Tiens Jérôme, on va commencer par toi, parce que c'est vrai que vous, en plus, les cyclistes, il n'y a pas de pause fraîcheur, on s'arrête pas au milieu de l'étape sur le Tour de France en disant attendez les gars, on va boire un coup et après on repart sur l'Alpe d'Huez, il nous restera 15 lacets. Non mais comment on gère quand on est cycliste, Jérôme?
On gère, j'ai pas envie de faire de la prévention santé, en revanche il faut juste savoir quelque chose, c'est que quand tu parles de sport de haut niveau, c'est notre métier, c'est du sport de haut niveau, c'est de se préparer à toutes les conditions et à être prêt pour des événements. Donc on s'entraîne dans des conditions extrêmes, mais on est prêt pour ça. Il faut être juste aussi très clair avec ça. On est fait pour ça. On s'entraîne. Le vélo, c'est pas possible de s'entraîner pour une course pour le Tour de France et de dire va rouler à la fraîche. Non, parce que tu fais 5, 6, 7 heures de vélo. Donc à la fraîche, ça dure jamais 7 heures. Donc on s'entraîne dans des conditions extrêmes, mais on est très affûté. On est très suivi par le médecin.
Tu t'entraînes dans des conditions de chaleur ?
Non, mais tu pars rouler le matin à 9 heures et tu rentres, il est 15 heures et donc il fait 35 degrés. Moi, j'ai participé au Tour de France en 2003. C'est l'année de la canicule. On n'a pas diminué les équipes. Les étapes, pardon. On avait un système de récupération et notamment à base de bain froid. Déjà à l'époque, on a sorti ça.
C'est de quoi à l'arrivée
à l'arrivée pour faire redescendre la température. Ouais, bien, on est très hydraté, on est suivi.
Une enceinte, hein, dans ce bain froid.
Alors apparemment, on peut mettre une enceinte flottante d'ailleurs maintenant. C'est génial. Non mais on n'avait pas d'ailleurs.
Bon, et donc
on est prêt pour ça. On s'adapte à cela. Maintenant que le sportif, on va dire, du dimanche puisse aller faire du sport, bah, décale tes horaires, quoi. C'est plus raisonnable. Non, c'est très dangereux.
Mais n'en fais pas. C'est surtout, il y a un moment, c'est pas parce que tu fais pas de sport pendant 3-4 jours. Non, je pense que c'est la responsabilité personnelle de chacun.
Tu peux en faire, Sarah, mais il faut
la responsabilité.
Tu baisses l'intensité et tu fais moins long.
Moi, ce matin, j'ai croisé des runners à 7h du mat. Ils faisaient
7h du mat, tu fais 18h, tu fais du sport. Mais il faut pas aller en plein cagnard toute l'après-midi. Moi, j'ai un petit coup de gueule à poser parce qu'il y a il s'est passé quelque chose de dramatique la semaine dernière sur une compétition dans une salle sur une compétition de challenge un peu sportif à très haute intensité. Il faut aussi que les organisateurs de ces événements-là prennent en considération que la santé de leurs participants. Ok, on fait de l'oseille sur des choses parce qu'on fait payer très cher l'inscription et c'est génial, c'est très à la mode, mais il faut parfois, par mesure de prévention, pour que ça dure dans le temps, prendre soin des gens qui se sont inscrits. Et je pense que certaines compétitions, et notamment celle-ci où c'est très haute intensité, dans des salles où on court, on pousse, on tire sur des choses.
Tu parles des compétitions d'Aerox,
c'est très, très, très dangereux de faire ce genre de sport en ce moment quand il fait très chaud. Alors, parce que les athlètes qui participent à cela ne sont pas des athlètes comme nous, prêts, parce qu'ils ne sont pas préparés toute l'année.
Mais ils sont peut-être préparés toute l'année, mais pas entraînés avec ce type de conditions.
Exactement.
Et on n'est pas tous égaux devant la chaleur. Hein. C'est-à-dire que tu peux te préparer, il y a ton corps. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a enfin, c'est propre à chacun de savoir si tu supportes exactement, si t'as des prédispositions à réussir à performer dans la chaleur. Après, tu peux être préparé, mais on n'est pas tous égaux. Je pense que.
Mais toi, par exemple, Sarah.
Je supportais, en tout cas, j'arrivais à supporter, surtout parce qu'en fait, nous, au tennis, tous les deux jeux, tu t'arrêtes.
Ouais, mais t'es quand même en plein cagnard.
T'es en plein cagnard, mais tu peux aller à l'ombre, tu sais, maintenant, on te met des boudins de glaçons. Moi, je prenais des sacs de
balle avec un parapluie pour que t'aies pas trop chaud.
Franchement, c'est un sport où tu as quand même très chaud, je trouve.
Oui.
Avec le vélo, par exemple, tu as de l'air un peu.
Non, mais comment tu t'adaptes? Est-ce que tactiquement tu t'adaptes à la chaleur aussi? Tu te dis faut pas faire
tu joues un peu différemment, c'est comme dans la fatigue extrême, tu joues un peu différemment. Si tu es capable de faire service volé, faut en profiter. Moi j'ai pas de
petit problème.
Le filet était très loin. Il était très très loin, mais
trop haut et trop loin.
Et très haut et trop loin, tu as raison. Et en plus notre sport a évolué parce que maintenant on a des règles qui s'appellent la heat rule. C'est une forme de moyenne entre la chaleur, l'humidité, le vent qui font que tu peux adapter les règles. Donc soit tu fermes le toit quand tu es à l'Open d'Australie, soit tu peux stopper le match. En tout cas, il y a quand même des règles qui sont en train de s'adapter. Et d'ailleurs, à Roland-Garros, la première semaine, ça a été problématique. Parce que comme à Paris, on n'avait pas l'humidité, cette fameuse heat rule,
elle ne pouvait pas être activée. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant, les épisodes caniculaires se répètent. Donc c'est en train de devenir quelque chose auquel il faut s'habituer.
Voilà.
Pascal, on parle de comment on gère la chaleur dans le sport de haut niveau, dans le football. Alors, toi, il y a deux choses, joueur et coach, peut-être comme joueur déjà, comment tu gérais ça?
Moi, je me souviens, tu vois, en 86, quand on regardait le match France-Brésil avec mon père,
c'est très chaud.
Ce qui m'avait stupéfait, il avait l'air de faire très très chaud. Je disais, mais comment ils font? Alors que j'étais footballeur professionnel à l'époque, comment ils font pour développer de telles intensités? Parce que le match, il était d'une intensité incroyable. Moi, franchement, je pouvais pas. Hein. Sous la chaleur, donc j'avais un petit moteur, je l'ai souvent dit, et sous la chaleur, c'était encore pire, quoi.
C'est quoi? Il faut être conscient de ses limites, c'est ça aussi la clé pour éviter le danger?
Ben en fait, quand t'es coach, parce qu'ensuite je suis passé coach, ben t'essayes de répertorier les joueurs qui sont capables de supporter et de jouer à haute intensité sur la, dans, sous la chaleur. C'est souvent les garçons les mieux armés athlétiquement.
Et t'arrives à les identifier quand même.
Ben, tu travailles avec toute l'année, donc tu connais leur, tu parles avec eux. Et avant ces matchs-là, quand tu joues sous une forte chaleur, ben t'essayes de faire la meilleure équipe possible et aussi.
Ah donc tu vas adapter parfois ta tactique et ton équipe par rapport.
Rentrant possible, parce que imagine ceux qui rentrent quand il fait comme aujourd'hui 39 degrés, mais il y a la chaleur étouffante, un stade de foot c'est étouffant, t'es sur le banc de touche, t'es remplaçant, tu vas t'échauffer, tu rentres alors que l'intensité est importante, mais très vite tu es complètement essoufflé, t'as la poitrine qui brûle, c'est il faut le vivre pour le ressentir, c'est malgré tout extrêmement difficile. Et ça demande, comme l'a très bien dit Jérôme, bah ça demande une préparation. Alors c'est plus facile pour les sportifs professionnels, mais c'est quelquefois de l'ordre de l'inconscient pour les sportifs, non pas du dimanche, mais même pour les sportifs qui ont l'habitude de sortir ou de faire du sport deux ou trois fois par semaine. Il faut vraiment s'adapter quand il fait chaud.
Mais c'est ça, voilà. c'est pas juste. Je vais juste m'hydrater un peu plus aujourd'hui parce qu'il fait très chaud.
Il faut s'hydrater plus, mais il y a aussi d'autres.
Il y a d'autres facteurs.
Les pastilles de sodium qui aident à la pour lutter contre la
déshydratation.
Voilà, souvent vous voyez des phénomènes de crampes quand il fait chaud. C'est parce que les mecs sont complètement déshydratés. L'alimentation aussi est prépondérante. Mais
vous mangez pas
et la condition physique générale.
La condition physique générale. La condition physique générale. Moi, j'ai mieux supporté.
Exactement. Voilà. Quand j'étais athlète, la chaleur, j'adorais ça. J'ai fait des Tours de France sous la chaleur et plus il faisait chaud, mieux c'était pour moi. J'ai refait maintenant du vélo que j'ai pris. Du poids et que j'ai vieilli et je suis plus athlète de haut niveau. J'ai fait 3 jours de vélo la semaine dernière. Le 3e jour, je suis rentré, j'ai dit à ma compagne, je suis sécose, quoi. Il n'aurait pas fallu l'heure de plus que j'ai fait aujourd'hui, il n'aurait pas fallu la faire. Mais c'est dangereux.
Je voudrais vous poser une question à mes deux collègues parce que nous, on ressent la chaleur au niveau de la voûte plantaire. Quand il fait très chaud,
c'est horrible.
Ça nous brûle la voûte plantaire. Vous, sur le bitume, vous ressentez la chaleur?
C'est horrible, parce que...
Hein, c'est incroyable.
Nous, en plus, il y a les conditions de chaleur sous le casque. Le casque est devenu obligatoire. Ouais. Tu parles de réhydratation. Un exemple, Tour d'Espagne, départ à Grenade, mi-août. Ah bah oui, t'allais à la 6e voiture, tu remontais en queue de peloton, l'eau était chaude. Ouais. Il faisait 40 degrés dehors. Et se mêle... en carbone, dans la chaussure, avec je pédale en carbone, avec le béton, qui lui n'est pas à 40, mais parfois à 60, 70.
Ça te brûle?
Ça brûle, tu finis les pieds, c'est l'enfer.
On peut pas faire des chaussures en lin, là,
pour le vélo. Au tennis, la difficulté, c'est que quand t'es dans un tournoi, tu sais pas quand tu vas rentrer sur le court, parce que t'es programmé.
En
plus de ça, pour t'hydrater... ou avoir des réserves énergétiques, bah t'es obligé, enfin tu
tâtonnes en fait.
Bah tu tâtonnes ou en tout cas parfois bah tu t'arrives le ventre vide parce que t'as mangé trop tôt et que le match a été plus long que prévu.
Oui, tu peux pas te préparer à des conditions précises en fait.
Exactement. Et en plus de ça, tu sais pas combien de temps ton match va durer. Donc ça fait.
Ça, c'est compliqué.
C'est très compliqué. Et quand tu dis que le bitume il est à 70,
le sol aussi, oui, j'imagine.
Quand tu es sur le ciment américain ou le Ribonace australien, je peux te dire que tes pieds ils brûlent et les ampoules, c'est affreux.
Mario Bartoli m'a dit plusieurs fois la tournée américaine, c'est sympa comme ça sur le papier, mais c'était l'enfer.
C'est l'enfer.
T'as
les pieds mais remplis d'ampoules au sang. Tu transpires dans ta chaussure, il y a le frottement, mais ça paraît bête, mais tu peux ne plus rentrer sur le court le lendemain parce que tu ne peux
plus. Tu peux pas récupérer, en fait.
Tu peux pas récupérer de tes ampoules aux pieds.
Mais c'est quoi, tu prépares, comment tu peux éviter ça, en fait?
Tu peux
pas. C'est de la survie, en fait, dans le sport de haut niveau.
C'est pareil, tout le monde ne transpire pas de la même manière. Donc, en fait, c'est la même chose. Il y a des joueurs qui transpirent énormément.
Tu découpes les chaussures, qui vont percer la chaussure pour la ventiler.
Ah ouais?
Bah oui, parce que.
Il y a des mecs qui ont des.
Là récemment, Paul Magnier. Hein. Regardez Paul Magnier sur le dernier Giro d'Italia. Il découpe la chaussure parce qu'il a le pied qui chauffe dans la semelle. Il faut que ça ventile. Les
ventilations. Il fait une ouverture dans la chaussure.
Il coupe la chaussure, clairement.
En fait, tu bricoles. Tu trouves des astuces.
Moi, j'ai fait des débuts de saison. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la chaleur ici, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai fait le début de saison en Australie, à Adélaïde, en plein mois de janvier. la même année que Joe Wilfried a fait la finale d'Australie, mais il faisait 50 degrés. C'était une chaleur étouffante. Et nous, on avait encore l'espèce de d'air que tu crées quand tu fais du vélo. Et on regardait le tennis, on regardait les gars et les filles jouer. On se dit, mais comment ils font? Parce que nous, on avait un cours de tennis à l'hôtel, on était arrivés de bonne heure, on s'est imaginé un jour à dire, viens, on va jouer. Mais impossible. Impossible. Je pense que la particularité du vélo, c'est que c'est un sport en mouvement, ça crée de l'air. Et c'est quand tu t'arrêtes que tu sens. Moi, je me rappelle 2003, la préparation passait par la route du Sud à l'époque, c'était le Tour d'Occitanie aujourd'hui. Il faisait une chaleur. Et à l'arrivée, personne ne prenait de douche. On faisait le bain froid et on attendait que le corps redescende parce que tu passais à la douche. Ça te réactivait et tu retranspirais deux fois plus. Le médecin nous avait dit, laissez le corps retomber avant de prendre votre douche et hydratez-vous.
Mais comment t'arrives à récupérer sur un Tour de France de 3 semaines? Franchement, quand il fait chaud tout le temps. C'est-à-dire que là, on parle d'une étape et de récupérer après, mais c'est un enchaînement d'étapes parce que tu récupères pas de la même façon.
Les conditions pour tout le monde pareil. Donc finalement, la santé et l'état de fatigue est avançant pour tout le monde. Par contre,
tu manges
plus d'aliments pleins d'eau, tu manges très salé, tu refais le niveau de sodium avec des pastilles parce que et tout de suite après la course, il faut faire ça.
Pendant l'étape, tu nourris différemment aussi par rapport à d'autres conditions?
Pendant l'étape, en général, quand tu as chaud, tu bois plus et tu te nourris plus de boissons.
Tu vas pas manger ton gel chaud.
Quand même, mais c'est compliqué. Plutôt là-bas, le gel, tu le manges. En revanche, le petit sandwich avec le petit fromage et le jambon, tu le prends pas.
Ça croque, monsieur.
Et à l'arrivée, c'est pareil. Et dans le bus, on avait tous tendance, mais la clim, on n'en peut plus. Ouais. Et en fait, le docteur, il disait, on ne met pas la clim.
Il faut attendre que ton corps redescende. Avant que les coureurs.
Exactement. Ouais. Et on passait des paliers. Et dans les chambres, il passait dans l'équipe Quickstep, il passait. Et bouger en loose day, bouger la température.
Non, mais alors pour le coup, ça c'est hyper intéressant parce que on ouvre, j'y avais pas pensé, mais dans ce dossier de la canicule, comme on gère dans le sport de haut niveau, la climatisation pour un sportif de haut niveau.
Attention,
c'est le grand méchant loup.
C'est le pire de tout. Nous, aux États-Unis où ils ne vivent que dans la clim, mais pour pas choper un mal de gorge. Quand t'arrives d'Europe et que tu rentres parce qu'à chaque fois tu rentres dans le bus, tu rentres à l'hôtel, tu rentres dans le player lounge, tu rentres dans les vestiaires, la clim elle est tellement forte et que ton corps lui est pas habitué, donc tu passes du très chaud à très froid, mais c'est systématique où tu chopes une angine, c'est systématique.
Ouais. Moi je pense qu'il faut interdire dans le sport de haut niveau, il faut interdire la clim dans les vestiaires par exemple. Non, mais dans les vestiaires, parce que le choc thermique est terrible.
T'es attentif à ça, toi Pascal, que t'es joueur prennent pas un coup de froid?
Bien sûr, ouais. Toi tu tentes d'être attentif à tout parce que en fait quand tu es sportif amateur, mais le sport professionnel, vous pouvez pas vous imaginer comme au niveau athlétique comme c'est coûteux pour ces sportifs. Quand tu es, comment dire, tu viens d'accomplir un effort de 90 minutes et plus au niveau professionnel, tu es 30 minutes ou 45 minutes après l'effort, tu prends ta douche, tu sors de la douche, t'es encore en nage, tu mets je ne sais pas en combien de minutes pour récupérer. Tellement l'effort est intense. Donc il est important de faire attention à tout, l'hydratation, la nourriture, le sommeil. Mmh. Et ces sportifs-là sont rompus à pratiquer leur discipline à un haut niveau, à une haute intensité, y compris sous la chaleur. Mais pas tous les sportifs du dimanche ou de la semaine. Il faut qu'ils soient très attentifs.
Et
un conseil à donner en ce moment, il faut faire gaffe. Quoi.
Ah oui.
Économise tes efforts, même si tu aimes le sport. Économise-les parce que tu préserveras ta santé.
Et on est tous inégaux aussi à cela et même à très haut niveau. J'ai une petite anecdote qui est rigolote parce qu'après on sait pourquoi. On a fait le Tour de France, arrivé à Mulhouse, on monte dans un bus, il faut prendre l'avion pour le transfert. Et ce jour-là, Michael Rasmussen est maillot jaune du Tour.
Michael Rasmussen, le Danois qui s'est ensuite déclassé pour. On est dopage d'ailleurs pour les affaires.
Pour climatisation.
On sait pourquoi. Et il était en Mexique en stage, finalement, il n'était pas au Mexique.
Ouais.
Bref. Et donc ce jour-là, les avions attendent sur le tarmac et nous, on est dans l'avion du maillot jaune. Donc, ils coupent la clim. Pas de clim sur le tarmac tant que l'avion n'a pas démarré, puisqu'on attend. Tout le monde est en transe. On finit, on enlève les t-shirts, ça dégouline. Rasmussen arrive, t-shirt coton, col mi-col roulé, oui. Manche longue. Il s'assoit à l'arrière de l'avion. Mec. Le mec il transpirait pas. L'avion démarre pas tout de suite. Nous on se dit mais il va enlever son t-shirt. Il a jamais enlevé le t-shirt.
Il a jamais transpiré.
Il a pas une goutte de transpiration. Bon, deux jours après, on a appris qu'il devait être au Mexique et finalement, il n'était pas tout à fait au Mexique. On a un peu mieux compris. Incroyable. Le mec, il alors t'as beau dire, oui, il a fait ci, il a fait ça, il a pas toujours été clean dans sa pratique du sport, mais quand même, danois.
Comment tu fais pour pas transpirer?
Maigre d'une. Vous vous rappelez de Michael Rasmussen? Il était très très affûté. Il n'avait pas une goutte de sueur.
Non, mais alors ça se travaille de résister à la chaleur parce que c'est.
Bah lui, il allait en Mexique en stage, par exemple.
Oui, bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais.
Bah ça se travaille.
Ouais, ok,
oui,
ok, Michael. Bien de raconter au 32-16.
Tu t'entraînes dans des cours.
Non, mais par exemple, Sinner qui est sensible à ça, qui n'a pas voulu le dire d'ailleurs quand il a été battu, il n'a pas voulu dire c'était à cause de ça. Mais il peut lutter contre ça dans sa carrière. Il peut arranger ça.
En tout cas, je sais. Là, il va falloir qu'il trouve une solution parce que ce n'est pas la première fois où on le voit. Perdre tout son tennis et perdre juste une manière de fonctionner.
Parce que Pogacar s'est amélioré par rapport à ça.
Mais il travaille à haute, il travaille toujours, dans des chambres chaudes.
Il aura toujours ce problème.
Oui, mais là,
parce qu'il est hyper entraîné.
Il est sec. Hein.
Donc, il fait partie de ces joueurs qui supportent moins la chaleur. Et oui. À mon sens, il a beau s'adapter,
il va peut-être trouver des choses palliatives qui vont lui permettre de réussir à fonctionner, mais ça restera, semble-t-il, toujours son talon d'Achille.
Ça, c'est
quoi.
Sûr, c'est une faiblesse. Lui, il doit travailler ça, alors que chez les autres, c'est quasiment naturel. Pour lui, c'est un effort de plus à faire. Alors, dans sa préparation.
Il faut se rappeler qu'au départ, il était jeune skieur.
Il
vient du Tyrol. Donc,
Tu vois, on a la possibilité de travailler dans une chambre chaude. En tennis, tu peux pas équiper, tu vois. Non, je sais qu'il y a des coureurs comme Tim Wellens que je citais tout à l'heure et Pogacar. Travaille dans des espèces de petits saunas où il travaille à haute intensité sur un home trainer avec de la chaleur.
Ce qui peut être dangereux aussi, il faut faire attention.
Ouais,
c'est encadré.
Très
voilà.
Exactement.
Commencez pas à faire ça chez vous, genre à mettre l'eau chaude à balle dans la salle de bain et à mettre le home trainer dedans.
Et puis commencer à faire des pompes, oui.
Non, mais c'est vrai, ils savent ne faites pas ça chez vous, comme on entend.
Après, il n'y a pas tant de sports qui se font sous des extrêmes chaleurs. On parle, c'est nos trois sports, c'est-à-dire le foot, le cyclisme.
Ah bah Fred Weiss, toute sa vie, il a fait du basket dans les salles climatisées.
Il n'y avait pas de la clim dans toutes les salles. Le tennis, t'as un peu le golf, mais bon, et puis la Formule 1, mais la Formule 1, de toute manière, quoi qu'il arrive, il fait chaud dans leur baquet.
C'est l'enfer.
La course à pied, certaines épreuves.
Oui, mais la course à pied, tu cours pas, tu peux décaler. Je veux dire, un marathon. Oui, mais tu peux le décaler. Oui. Regarde le marathon, tu peux le décaler.
En natation, par exemple, c'est pas la même histoire, quoi.
Bah non, t'es dans l'eau, enfin, tu veux dire.
Mais me réponds pas sérieusement. J'ai bien compris.
T'es tombé dans le piège, là. Non, mais un petit conseil. On peut donner un conseil santé. Nous, on avait le médecin, il avait plein de consignes à nous donner, évidemment. Et tout le monde a ce réflexe-là. Si ma compagne m'entend, elle va dire, tu le fais quand même. Pas de douche froide. Douche tempérée. Si tu prends une douche froide, ton corps va réagir et tu vas avoir encore plus chaud les 5 minutes qui suivent. Alors douche chaude ou douche tempérée, mais pas de douche froide quand il fait très chaud.
Ouais, mais ça oui effectivement, c'est un conseil très important.
Mais d'ailleurs les bédouins, ils boivent du thé chaud dans le désert. Ouais, ils prennent pas de
boivent chaud.
Ils boivent chaud. Mmh. Donc
et là quand on voit aussi sur les
attention après
ils font pas de sport.
Voilà, ça veut pas dire que là il faut vous envoyer 6 litres de café avant de partir.
Les populations, c'est aussi les populations qui sont nées dans la chaleur. Nous c'est les épiphénomènes qui font que
c'est plus des épiphénomènes.
Sur le vélo par exemple, on a des points stratégiques dans le corps où, par exemple sous les poignets, dans la nuque, où on peut refroidir l'ensemble du corps. C'est pour ça que vous voyez les coureurs cyclistes, ça va pas être une bêtise, genre je te vois les coureurs cyclistes mettent des poches dans les bas de femmes, des glaçons mettent sur la nuque et tout au long de la course ça fond et ça tempère le corps.
C'est parce que je t'imaginais dans la montée d'Alpes d'Huez, il faut que je rafraîchisse mon poing
J'avais des points, des petits poignets avec des glaçons dessus.
Faut que je rafraîchisse mon poignet,
c'est bien.
Je suis souvent rafraîchi le poignet d'ailleurs.
Mais c'est important effectivement
de savoir
comment affronter la canicule sur les routes du Tour de France, sur les épreuves de tennis. Faites pas n'importe quoi, jouez pas au tennis là à midi.
midi, sortez non, pas
attendez midi et demi.
Faire du vélo. Non, mais enfin, en tout cas, si vous êtes dans une bulle indoor, allez-y éventuellement. Même si dans des bulles,
non,
là, c'est
non, mais bulles,
aussi.
Même les, au contraire, c'est pire.
Une bulle
ça climatisée. Fait serre. C'est comme une
ah oui,
serre.
Ça fait donc, serre. C'est
non, 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 surtout pas.
T'as raison.
Non, mais ne jouez pas au tennis quand il fait chaud. Vous attendez. Vous y allez le matin ou le soir. Le matin,
ne jouez pas au tennis tout court.
Allez, on ferme la porte du vestiaire. Retrouvez évidemment en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous avez bien compris, là, si vous n'avez pas compris ce qu'il ne faut pas faire, c'est que vraiment vous n'aviez pas voulu entendre. Évidemment, on a plein de messages là-dessus. Hein. Il faut être responsable. Le cyclisme, vous êtes un sport inhumain, dit Eddie. Jeff me dit, je fais des travaux sur des cordes en plein cagnard. Oui. Les sportifs de haut niveau, c'est aussi nous, les gars du BTP.
Exactement.
Évidemment, évidemment les amis. Vous savez que toujours, justement, on parle dans le vestiaire de ces séquences-là parce qu'on sait que ça fait écho. C'est pas que des problématiques du sport de haut niveau. On sait qu'il y a beaucoup de travailleurs sur les chantiers. Voilà, hier, je suis allé dans une pizzeria. Pizzaiolo m'a dit qu'on est obligé de fermer à midi parce que, avec le four, plus le soleil qui tape en plein cagnard, on est obligé de s'adapter. Voilà, bah, on doit tous s'adapter et faire attention à notre état de santé, évidemment, être responsable. Allez, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport. On va parler de Rafael Nadal, qui est un exemple pour Lionel Messi. Mais est-ce vraiment un bon exemple, Rafa ? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? Je rappelle qu'il y a une enceinte, Lexon, à remporter aujourd'hui. Une enceinte qui est parfaitement adaptée aux conditions actuelles. Hein, flottante, et Bluetooth. Allez, d'abord, les amis, sur le buzzer. Lionel Messi a dit qu'il avait une grande inspiration pour son dernier mondial. C'est ce monsieur.
RMC, les GG sur le buzzer.
14 à Roland-Garros.
Bon, revers, attention, Casper Ruud est en difficulté. Nadal a une batte d'attaque. Il monte. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette. Il n'en croit pas ses yeux. Rafa Nadal remporte cette finale.
En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018.
J'ai joué avec des injections au nerf. C'est pour ça que j'ai été capable de jouer. Je n'avais aucune sensation. Une injection anesthésiante. C'était un risque, mais je voulais continuer de jouer et me donner une chance.
Rafa Nadal, quel immense champion, Rafael Nadal.
Je vous rappelle que Nadal, on lui disait, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Il est plus capable de mettre deux pieds devant l'autre.
À méditer, effectivement. D'être capable ou pas de mettre deux pieds devant l'autre. Pas facile, hein. Essayez chez vous. Vous allez voir. Vous risquez de perdre peut-être.
Je viens d'essayer, je suis tombé.
Mais vous avez entendu que j'hésite. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai une boulette, mais que j'arrive pas à me rattraper.
Et à un moment donné, tu dis allez, c'est bon.
Le mec, il met pas un pied devant l'autre, il est déjà pas bon. Alors deux pieds devant l'autre.
Deux pieds devant l'autre.
C'est chaud.
Bah, sinon, c'est que t'as trois pieds.
Et là, c'est tranquille.
C'est ça. Allez, Rafa Nadal, mais effectivement, c'est deux pieds devant l'autre, vous inquiétez pas. Mais Lionel Messi s'en inspire, figurez-vous, il l'a dit après son triplé face à l'Algérie.
Moi, ce que j'aime, c'est jouer au football. C'est ma passion depuis que je suis tout petit. Quand je me sens bien, comme là, je donne le maximum. En ce moment, on regarde la série documentaire sur Rafael Nadal et je m'identifie beaucoup à lui. Je crois que nous sommes les mêmes sur ce point-là. Je veux toujours donner plus et me sentir bien.
Voilà, Messi, t'as un message, Léo, qui regarde effectivement le documentaire de Rafa pour s'inspirer pendant cette Coupe du Monde. Alors, que dit la série disponible sur Netflix? Que d'ailleurs, je vous recommande, elle nous apprend plein de choses. Nadal confie qu'il a beaucoup souffert pendant sa carrière à cause de ce syndrome Müller-Weiss qu'on a souvent entendu, rien à voir avec Fred, avec lequel il vit depuis ses 18 ans. C'est une maladie aux pieds rares. L'Espagnol, il a joué toute sa carrière avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, il a poussé son corps jusqu'aux limites, encore et encore, poussé à l'excès par son oncle Tony. Ensuite et surtout, à base d'injections anesthésiantes et d'anti-inflammatoires permanents. Parfois, ça lui a même provoqué des trous dans les intestins. C'est ce qu'il dit Rafa. Alors, les GG, je vous pose la question. Messi, inspiré par Nadal, mais est-ce que Rafa, c'est un peu provoque, hein, peut-être pour certains, est vraiment un bon exemple pour les jeunes sportifs? Sarah.
Oui, parce que ce qu'il raconte dans ce documentaire ne se réduit pas au fait qu'il ait joué au plus haut niveau avec avec des anti-inflammatoires. Je suis sûre qu'il y a d'autres sportifs qui ont fait toute leur carrière sous anti-inflammatoires. Mais je pense que c'est plutôt sur le côté résilience.
Ben c'est un grand oui,
inspirant.
Ça, hein. C'est un oui.
C'est un immense
oui. C'est un oui développé, ça. Hein. Pascal.
Oui.
Bah oui.
Et Jérôme.
Il va me dire non.
Eh ben non.
Eh ben non. Pour toi, Raphaël,
non, mais t'es tout le temps dans la suspicion, toi. On voit bien que t'as fait du vélo.
Mais attends. Moi, je vais pas commencer le débat. Je vais juste te dire que dans ce qu'il fait, ce qu'il dit, si c'est un coureur cycliste, il est condamné.
Quoi, il est condamné?
Bah, tout ce qu'il dit, j'ai joué sous infiltration,
c'est
j'ai fait.
C'est inflammatoire.
Bah oui, c'est pas la même règle pour tout le monde. Donc, c'est pas déjà, c'est juste une aparté par rapport à ça.
Non, mais ça
reste un grand champion, hein,
parce que
problème,
vous,
hein.
C'est inscrit au produit dopant, c'est ce que tu veux dire.
Ah oui.
Okay, mais...
Non, mais alors en tout cas. Non,
mais moi, je prends pas la question dans ce sens-là.
Mais pour développer ton propos.
Non, mais moi, je dis non parce que ça, c'est évidemment que sur le côté résilience, le côté talent, le côté travail, parce que c'est un gros travailleur, on le sait.
C'est un exemple.
Ça, pas de problème, c'est un exemple. En revanche, ça peut pas être un exemple dans la partie où ne pas écouter son corps, aller plus loin dans la douleur, se créer d'autres mots pour soigner un mal qui est présent depuis longtemps. Je fais partie de ceux qui se disent je fais du sport à très haut niveau, mais si j'ai un souci, je me soigne, je m'arrête et je recommence.
Mais là,
quand je suis
ça
guéri.
Soignait pas.
Mais oui, mais alors du coup,
ça s'arrête complètement.
Ouais, mais t'as vu les problèmes de santé que ça lui a créé après. Oui. Est-ce qu'il va faire un beau vieux? Je pense pas. Et tu n'y a pas. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup?
Bah ça, c'est son choix personnel.
Voilà. Oui, mais oui, mais tu peux pas.
Ah, mais là, on parle d'être
ça
un exemple.
Ça peut pas être un exemple
sportif,
pour la jeunesse.
Justement. Donc, Pascal.
Mais moi, je pense que c'est un exemple pour la jeunesse parce que je considère justement qu'il ne se dope pas, mais qu'il tente de réparer.
Ah, mais j'ai pas dit qu'il se dopait. Hein. J'ai dit juste voilà, qu'il est
si de manière artificielle. Si on m'avait parlé de dopage, je t'aurais dit. On en a parlé hier au téléphone avec Georges. Mais moi, c'est sa capacité à résister, à lutter, à vouloir. Parce qu'il est passionné, comme le dit très bien Messi. Il est tellement passionné par son sport.
Ouais.
Il pressent très vite qu'il va être un très bon joueur, à condition bien sûr qu'il s'entraîne en conséquence, qu'il en oublie de protéger son corps. Mais ça lui appartient. Il a décidé d'aller au bout de lui-même, de quelquefois avoir recours ou souvent à des infiltrations, mais et c'est parce que il a l'appétence pour son sport, l'appétence pour la victoire et il veut continuer.
Oui, mais justement
continuer.
Là ça lui appartient, c'est dit Pascal, mais là on parle d'être un exemple.
Pour moi c'est un exemple de résilience. C'est un exemple de résilience, parce que croyez-vous, là on est en train de parler d'un super champion, mais vous croyez que tous les sportifs de haut niveau qui ont donc tutoyé ou qui ont joué au haut niveau, vous pensez qu'ils n'ont pas fait de sacrifices physiques pour y arriver, et d'autres sacrifices?
Alors ça c'est sûr.
Mais on entend souvent ici dans les grandes gueules
tous
du sport,
autant
on voit que le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé.
Voilà. Exactement.
Non, mais après moi,
mais tout ce qui est excessif n'est pas bon pour la santé. En l'occurrence, un sportif de haut niveau est dans l'excès à longueur de temps.
Oui.
Donc, et puis, combien de sportifs font une carrière sans des douleurs récurrentes? Ça existe quasiment pas, ça.
Jamais.
Non, mais la douleur sans soin, c'est autre chose. Là, c'est le soin qui, moi, me gêne.
Mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ce que je veux dire, c'est
autrement,
pas,
il s'arrête.
C'est
pas
responsable aussi, justement.
C'est pas des ligaments croisés du genou ou une entorse à la cheville où tu te fais réparer ton ligament. Là, c'est quelque chose de.
Oui, mais on a des cas quand même très.
Il se fait couper les doigts de pied.
Sarah, on a des cas aussi aujourd'hui dans le sport de très haut niveau. J'ai oublié son nom, genre tu vas me le rappeler, de ce joueur qui a joué au Paris Saint-Germain, qui à force de faire infiltration sur infiltration, s'est fait amputer d'une jambe. Parce que est-ce que c'est ça pour gagner des compètes, des tournois? Je finis avec de l'ostéoporose, avec des problèmes d'intestin.
C'est parce Baptiste Soutin aussi.
Tu te romps les tendons d'Achille.
Ça fait beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, ce n'est que mon avis. Non. Est-ce que c'est un exemple pour moi? Mes enfants me disent, je veux faire comme, mais à partir du moment où je veux faire comme lui, je vais faire comme lui et j'aurai la même santé que lui dans 15 ans. Bah non.
Moi, je vous dis franchement, j'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à regarder ce documentaire sur Netflix sur Raphaël Nadal. On n'est pas là pour vendre les produits, mais quand c'est bien,
non, mais c'est
intéressant.
C'est un témoignage.
Mais moi, ce que ça m'a généré, c'est une certaine forme de malaise quand même. C'est-à-dire que moi je le respecte, je l'adore, hein, Raphaël Nadal, c'est un super champion, mais d'être prêt à tout à ce point-là, au point de mettre son corps en danger, En fait, à un moment donné,
Alex,
à l'excès. Ouais.
Et en fait, quand il a 16 ans ou 17 ans.
Une certaine forme de lucidité. Donc,
quand il est jeune,
ça me dérange. Déjà, tu vois, quand il dit j'avais des trous dans l'intestin et tout, enfin, ok, la résilience et tout. Mais là, à un moment donné, on va pas un peu trop loin quand même. C'est pour ça la question de l'exemple ou pas. En fait, si on montre ce documentaire à des jeunes sportifs, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit faites comme Nadal? Ou justement, c'est un exemple pour dire. N'allez pas jusque là non plus. Enfin, prenez soin de vous. Moi, ça pose la question quand même. Est-ce que c'est bien de gagner comme ça aussi? Est-ce que c'est bien de gagner comme ça?
Franchement. Mais il a gagné, mais il a pas triché pour gagner. Il s'est soigné pour gagner. Et ensuite, l'appétence du succès fait que c'était mieux.
À quel point est-ce que c'est bien de valoriser
les dommages qu'il va créer à son corps.
Oui, mais à quel point c'est bien de valoriser le être prêt à tout pour gagner.
En fait, alors ça, personne ne fait à ce moment-là peut faire du sport professionnel. Georges,
peut-être que je suis un romantique.
Non, mais
Georges, j'ai fait une honnête carrière de footballeur. J'ai les deux tendons d'Achille rompus. Un ligament croisé, les deux hanches, ce sont des protèges. J'ai eu mes problèmes cardiaques, mais peut-être que sans le sport de haut niveau, je serais mort depuis quelques années déjà.
Donc, t'aurais peut-être pas ces douleurs de hanches et de talons.
Mais j'ai un squelette de vieux, mais combien sommes-nous à avoir des squelettes de vieux? Parce que nous avons fait du sport de haut niveau.
C'est pas parce que tu vois le reportage sur Nadal et le fait qu'il ait eu ces douleurs que tu vas freiner un jeune.
Non, bien sûr.
Que tu vas freiner un jeune qui veut faire une carrière et qui a une motivation hors norme et qui est prêt à tout donner pour réaliser le rêve de sa vie. Enfin, c'est pas ce reportage-là qui va te donner envie de le faire ou au contraire
attention Sarah, en fait moi ce que je dis c'est que moi j'entends ce que dit Pascal et je vous entends tous, chacun fait ce qu'il veut évidemment avec son corps et chacun est responsable de son corps, mais attention peut-être à ne pas véhiculer une image un peu romantique de la résilience de Nadal,
c'est pas romantique,
de dire ah mais regardez tout ce qu'il a fait pour en arriver là, c'est quand même mais quel champion. Sur ce cas particulier, sur ça, ça me dérange un peu.
S'il n'y a pas ce reportage, personne ne le sait.
Et on le savait un peu, là, on le voit vraiment.
Non, on pense que cette douleur et ce problème, on pense que c'était sur sa fin de carrière. Mais à aucun moment, on pensait que, en fait, ça a été dès le début, il n'en a jamais parlé.
C'est des choses qui viennent très sournoisement. Tu sais, moi, j'ai toujours été, j'ai toujours élevé la voix contre les tricheurs et notamment ceux qui, après, continue à nous donner des leçons, mais j'ai toujours dit aussi c'est un peu comme le dopage, ça vient gentiment, mais ça vient pas d'un seul coup, et ça vient souvent sournoisement, et selon les circonstances, tu gères pas ça. Et peut-on se dire que si on avait été à sa place ou à la place d'un coureur qui aurait triché,
j'aurais fait pareil.
Chris sur WhatsApp me dit oui Georges, mais regarde Nadal, Marc Marquez, tous les skieurs de haut niveau m'aident au quotidien à battre mon handicap, même quand ils me cassent les bonbons, je ne lâche rien, tout comme Nadal et Marc Marquez. Mais là, on est complètement d'accord, Chris. C'est vrai que ces champions-là sont des exemples de résilience. Mais ce que je veux dire, c'est que attention peut-être à ce qu'on met en valeur dans le champion. Pas tout. Il faut être un peu.
Sarah, t'as parfaitement résumé. Il ne faut pas romantiser la vie de sportif de haut niveau,
extrêmement dur.
Parce qu'on peut aussi parler des traumas psychologiques que le sport de haut niveau génère.
Allez, débat fascinant, évidemment. Je suis sûr qu'on en reparlera dans les grandes gueules du sport, sans aucun doute. Allez, tout de suite, les amis. Attention, je vais faire un contrôle antilopage avant. Personne ne doit être positif pour les jeux du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, avec Jérôme Pinault, avec Sarah Pitkowski et vous au 32-16. Tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Alors, vous dites certainement, mais ils sont trois autour de la table. Comment vont-ils faire? Eh bien, aujourd'hui, je vais jouer avec vous. C'est notre producteur, Kylian Vérov, que j'accueille en studio, qui va être le maître du jeu. Salut, Kylian.
Salut, Georges. Salut, tout le monde. Répartition des équipes. Jérôme Pinault, Georges Quirino, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski.
Allez, Pascal.
Non, je rappelle qu'il y a la question impossible.
Préparer les questions avec Kylian, du coup.
Non, je ne suis pas du tout con.
Si, il connaît tout, t'en fais pas.
Question impossible. Trois points, je rappelle, activables par chacun. Une mauvaise réponse, c'est moins un point. J'accueille quand même les auditeurs, Kylian, tu me permets.
Il le faut, voilà.
Parce que Kylian est notre producteur, il me parle dans l'oreille, s'il me dit.
Je crois qu'il y a Gwendal et Julien.
Exactement, Gwendal et Julien, quel producteur. Salut Gwendal.
Incroyable.
Salut Julien. Gwendal, c'est toi qui as appelé en premier, tu nous appelles de l'accueil.
Lucano en Gironde.
Oh, trop bien.
Julien de Lot-et-Garonne. Wendal, tu veux jouer avec qui? Avec l'équipe Duprat-Pitkowski ou Pino Quirino?
Ah, je vais essayer de prendre l'échappée avec Juro Pino.
Allez.
Lacano?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais?
J'ai passé.
C'est un contre la montre là.
J'étais tout juste à Lacano.
Ah oui, d'accord.
Bon, parti il y a pas longtemps.
Bah écoute, tu étais pas longtemps, ça marche quand même.
Ouais, ça marche quand même.
Je rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner une enceinte portable Mino X de Lexon.
Flottante,
exactement. Ah ouais. Ah, il nous reste 5 minutes pour faire le jeu, Kylian. Je te laisse prendre la main.
Allez, on y va. Première question à une seule réponse. Les GG, contre qui joue le Cap-Vert la nuit prochaine?
L'Uruguay.
Ah,
j'ai réfléchi au groupe.
Bonjour, Kirino. Ouais. Ce sera à minuit.
T'aurais pu nous le faire. Uruguay.
Alors, dans cette question à une seule réponse, toujours. En battant la Suède hier soir, les Pays-Bas ont battu un record d'invincibilité en Coupe du Monde. Il reste sur combien de matchs sans défaite?
20.
Non.
Plusieurs réponses possibles.
Combien de matchs sans défaite
le plus
dans la compétition?
11.
15.
13.
Ah, vous avez gagné, c'était 12. 14, tout pile.
Oh là là, on est immense.
Ça fait 2 points.
Comme Cédric.
Cédric est immense, c'est bien. Ouais. Tu l'as fait tellement souvent, celle-là, qu'on va
finir. Mais je la fais jamais en direct, je suis content de la faire. 2-0.
On enchaîne, question à une seule réponse, toujours. Contre qui s'est incliné Hugo Humbert en demi-finale du Queens?
Moll.
Paul, Tommy Paul.
Ah, Paul.
Paul.
Non,
mais bah, alors t'étais à 15, alors que c'est 14. Moll, Paul, c'est une lettre finalement.
Question auditeur, Wendal, Julien, votre réponse suivie de votre prénom pour qu'on sache qui a répondu. Quelle équipe s'est qualifiée en finale du top 14 hier soir?
Montpellier, Julien.
On est bien, on reste là-dessus.
Bravo,
là. Bien joué les gars.
Question à une seule réponse pour vous les GG. Tour de Suisse, qui est le premier français au classement général?
Grégoire.
Non.
Au classement général?
Classement général du Tour de Suisse.
Ah, Lenny Martinez.
Non.
C'était une seule réponse?
Une seule réponse.
Donc on est éliminé avec Sarah. Jérôme et Pascal.
Jérôme Pascal.
Ah, moi je sais, je suis en train de dire.
Brieux Roland.
Non.
Il reste Pascal.
Sinon, on oubliera.
Ouais. Vinny Martinez.
Allez, 5.
Non.
Vauclin.
Je l'ai dit.
Il fait de l'offide.
C'était Paul Lapéras.
Paul Lapéras. Mais heureusement qu'on n'a pas de consultant cycliste sur ce plateau.
Ouais, heureusement.
25e, papa. 25e du classement général.
Je ne suis pas ton papa. 2-1 toujours pour nous, même si nous sommes dans la même équipe.
Allez, question à élimination pour 2 points. Vous répondez à tour de rôle, une erreur et vous êtes éliminé. Le Real Madrid a balancé un nouveau communiqué pour démentir une rumeur comme quoi ils allaient mettre 222 millions d'euros pour Olise. Ça va être très simple. Je vais vous demander de me donner tous les joueurs qui ont été transférés pour plus de 100 millions d'euros. Il y en a 19, il y a des très grandes stars et des un peu moins connus. On va faire à tour de rôle. Sarah.
Mbappé.
Mbappé, ça marche. Jérôme.
Cristiano.
Cristiano, ça marche. Pascal.
Messi.
Messi n'est pas dans la liste.
Mais non, il arrive en fin de
contrat. Ah,
oui, tout à fait, éliminé, Pascal. Georges.
Allez, Sarah.
Van Dijk.
Van Dijk, il l'est pas.
Non.
Liste, il y en avait pourtant des très évidents. Ouais. Sarah.
Est-ce que Neymar?
Neymar, le plus gros.
Mais quel imbécile.
222 millions. Jérôme.
Zlatan.
Zlatan, il l'est pas au-dessus de 100 millions. Sarah, t'en as un dernier.
Allez, Sarah.
Pour boucler cette victoire.
Allez, Sarah.
Je cherche.
Dembélé.
Bah ouais, non, Dembélé, il y est. Mais non, Dembélé, il y est pas. S'il y est Dembélé.
Il y est Dembélé, c'était le troisième pour 148
bien, Sarah,
millions d'euros. Bravo, c'est quand même vous qui remportez les 2 points.
3-2 voilà. Pour l'équipe Duprat-Pitkowski.
3-2.
Oui. Ça fait quand même 2 fois que je gagne sur des trucs de foot. Je sais pas si vous en...
Question auditeur.
Quand même bizarre.
Question auditeur, Gwendal, Julien, on est à J-1 de France-Irak à part Mbappé. Qui a marqué pour les Bleus contre le Sénégal?
Allez, les enfants.
Marc Collard, Julien.
C'est pour nous, non? 4-2.
Allez,
c'est dur. Il vient de loin.
4-2. Bravo. Question à une seule réponse, les GG. Quelle légende du basket français a tiré sa révérence ce week-end?
De Colo.
Ah, ouais, bien joué.
Bravo, Georges. On enchaîne. 3. Question à une seule réponse. Quel joueur a été filmé en train de vendre des cartes Panini?
Maguire.
Ouais.
Ah, 4-4.
Égalité, ce sera la dernière
question.
Oh là là,
Tout va se jouer.
Question en bois.
Question, attention.
Quand tu l'as pas.
T'en fais pas, je connais le chrono, je suis producteur, Jérôme. Concentre-toi plutôt.
Je suis concentré là, vas-y, balance ta question là.
Question à une seule réponse. Le 13 juin 96, les Bulls de Michael Jordan remportent le titre NBA.
Ah non, ça, j'en sais rien.
Après avoir conclu la saison régulière avec un record historique, c'était quoi leur bilan de victoire-défaite?
Oh, mais t'es un chien.
Mais non, mais ça, mais qu'est-ce qu'on.
Le plus proche l'emporte.
Attends.
Il y a 82 matchs par saison.
82 matchs, attends, Pascal.
C'est un record historique.
Attends, il y a combien de matchs gagnés sur les 82?
78.
78, ça.
80.
77.
Jérôme.
Ah, ils ont gagné.
Eh ben, ils ont gagné.
Non, c'est 78, je suis sûr.
79.
Eh bien, c'était 72-10 à l'époque.
Non, c'est Jean-Baptiste
qui l'emporte. Victoire de l'équipe de
Jean-Baptiste. C'est quoi l'histoire?
Bravo,
Gwendal, c'est toi qui gagne l'enceinte Lexon.
Flottante. Super, on suit à vous.
Flottante.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Merci beaucoup Kylian, merci Sarah, merci Jérôme, merci Pascal. Il était important hein, de rétablir un petit peu quand même les savoirs des uns et des autres en toute humilité qui nous caractérise, Pascal. On va rester tous les deux pour les paris RMC dans un instant. Restez avec nous.